massacré. Art Sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous. C'est le 17 novembre que l'Église catholique fête Sainte Élisabeth de Hongrie. Cette fille de roi va vivre une vie de générosité auprès des pauvres, ayant découvert l'action et la spiritualité de Saint François. Et pour illustrer cette vie de Sainte Élisabeth de Hongrie, je reçois à ce micro Clémentine Baudry. Bonjour Clémentine.
Bonjour Marie-Madeleine.
Alors, vous avez choisi un vitrail canadien.
Tout à fait. C'est un vitrail donc, de Sainte-Élisabeth qui se trouve dans l'église Saint-Patrick à Montréal.
Voilà, au Canada, dans le Québec. Au Québec. Voilà. Alors, avant que nous abordions le vif du sujet, je vous invite, chers auditeurs, à aller sur vos moteurs de recherche et taper « Vitrail de Sainte-Élisabeth de Hongrie à Montréal ». Montréal, ça s'écrit. Voilà. Et vous aurez l'image sous les yeux. Vous en aurez même deux. Mais nous allons surtout commenter la deuxième, Sainte Élisabeth qui s'adresse aux pauvres, qui distribue du pain aux pauvres. Voilà. Alors, que pouvons-nous dire d'abord peut-être sur cette église ?
Alors, cette église, elle a été construite en 1841 à la demande des catholiques irlandais qui demandaient à obtenir une église bien à eux.
Voilà, des émigrés irlandais
tout à fait,
au Canada.
Qui sont arrivés nombreux donc, dans la première moitié du 19e siècle, suite aux famines. Et donc, cette église sera effective, pourra commencer à être ouverte au culte à partir de 1847.
D'accord. Donc, le vitrail date de cette époque-là à peu près.
Oui, le vitrail date de 1893,
aux alentours. Ah oui,
il est plus tardif. Un petit peu plus tardif au niveau des décors.
Très bien. Très bien. Alors, Élisabeth de Hongrie. Donc, elle est née en Hongrie.
Tout à fait.
Ce qu'on appelait peut-être la Thuringe à l'époque, au Moyen-Âge, puisqu'elle est née en 1207. Voilà. Tout à fait. À Presbourg, exactement. Et elle va avoir une vie très courte. Elle va vivre 24 ans. Et elle va mourir en 1231. À Marbourg, toujours en Thuringe. Voilà. Alors, c'est une fille de roi.
Oui, alors elle a une vie courte et très marquée par la charité.
Oui.
Donc, elle est née à la cour hongroise, donc 13e siècle, tout début
voilà,
13e
du roi
siècle.
André II de Hongrie, pour les puristes.
Et dès sa plus tendre enfance, elle est déjà très pieuse. Elle récitait déjà ses prières, manifestait beaucoup de tendresse envers les pauvres. Et âgée de 4 ans déjà seulement, elle est fiancée.
Oui, à l'époque, c'était très tôt.
Tout à fait. Elle part vivre en Allemagne, où elle doit devenir duchesse. Et ensuite, elle sera mariée à l'âge de 14 ans. Et c'est en Allemagne qu'elle fera la rencontre des franciscains et elle décidera de se mettre entièrement au service des pauvres.
Voilà. Donc elle est mariée au landgrave. Voilà. Alors le landgrave, c'était un titre qui était porté par des princes germaniques qui possédaient des terres qui dépendaient de l'empereur directement. Voilà. Et donc, pour les historiens qui nous écoutent éventuellement, il y a donc trois princes qui ont porté ce titre de landgrave, les comtes d'Alsace et de Hesse et le prince de Thuringe, voilà, auquel était mariée donc Sainte Élisabeth de Hongrie.
Ces époux donc sont liés au départ par une alliance diplomatique, mais un amour sincère naît entre eux et ils sont devenus respectivement bienheureux et saintes.
Voilà.
Ils se sont élevés mutuellement dans la foi. Et Sainte Élisabeth offrait à son mari un exemple de dévotion et de charité.
Oui.
Et son mari, Louis, qu'on appelle aussi Ludovic, quelquefois dans certains écrits, protégeait et soutenait sa femme dans ses œuvres de générosité.
Voilà. Mais il y avait la belle famille.
Un peu compliqué.
Voilà. Là, il y a un bémol. Parce que la belle-mère n'était pas très d'accord. D'ailleurs, à un moment, Elle a dû s'enfuir. Enfin, elle a dû partir avec ses enfants, Sainte Élisabeth.
Hein. Tout à fait, parce que à l'âge de 20 ans, toute jeune encore, elle perd son mari. Donc, voilà. C'est en 1227, qui, au moment d'embarquer pour la croisade, meurt de la peste. Et à ce moment-là, sa belle famille, jugeant sa piété extravagante, la chasse de la cour. Et donc, elle se retrouve, à un moment donné, hébergée dans une porcherie. Hein, c'est très, très difficile.
Avec ses trois enfants.
Avec ses trois enfants, dont un tout jeune enfant. Et donc, son oncle, qui est évêque de Bamberg à l'époque, donc, calme le jeu et lui permet de revêtir l'habit du tiers-ordre franciscain. Les enfants seront élevés par la famille ducale, du coup.
Voilà, c'est ça. Donc... Tout finit bien, mais elle a passé des moments quand même très très difficiles. Alors c'est peut-être, elle était déjà très pieuse et très tournée vers les pauvres, mais c'est peut-être cela a incité encore plus à se tourner vers les pauvres, à partir donc de sa connaissance de Saint François.
Oui, tout à fait.
Et de l'œuvre de Saint François. Hein, voilà. Oui.
Les deux époux se sont formés ensemble à la spiritualité de Saint François d'Assise.
Voilà.
Oui. J'ai une petite anecdote.
Oui.
Concernant la charité de Sainte Élisabeth.
Nos auditeurs en sont friands.
Donc cette abnégation de la princesse avait de quoi surprendre et elle faisait jaser autour d'elle. Donc voici l'anecdote. Comme elle donnait à boire et à manger aux pauvres, vendant ses parures et le blé du château pour subvenir à leurs besoins, les conseillers du roi l'alertèrent de ses excessives prodigalités. Et le roi répondit « Tant qu'elle ne vend pas le château, j'en suis content. »
D'accord.
En réalité, il semblait plutôt admiratif de la générosité de sa femme.
Et oui, il l'a laissé faire quand même. Donc voilà, c'est que ça allait bien. Très bien. C'est en 1222, donc elle va faire partie donc, du tiers-ordre
oui.
Franciscain. Une association de fidèles laïcs qui est fondée en même temps que les deux autres ordres par Saint François. Donc Saint François en 1222 fonde les trois ordres, c'est-à-dire les frères mineurs franciscains, les clarisses pour les franciscaines femmes et le tiers ordre. Qui n'est pas un ordre, mais qui est le troisième élément, si on peut dire, la troisième structure, hein, association que Saint François crée. Alors le tiers ordre, c'est donc un rassemblement de pieux fidèles, laïcs, mais qui veulent suivre en partie la règle de Saint François, hein, c'est-à-dire la prière et la pauvreté, surtout, et la charité.
Oui.
Hein, voilà. Et... Donc, Sainte Élisabeth de Hongrie va faire partie de ce tiers ordre. Je pense que c'est à la mort de Saint François, en 1228, cette année-là, qu'elle va rentrer dans cet ordre.
Oui, tout à fait. En 1228, en fait, c'est le moment où elle est... elle reçoit elle aussi une dotation suffisante. Elle est réintégrée, on peut dire, en quelque sorte... pas tout à fait réintégrée, mais tolérée par sa belle famille, elle refuse de reprendre le pouvoir, elle renonce définitivement au monde, et elle reçoit une dotation suffisante pour se retirer au château familial, où elle décide de construire un hôpital, et de se mettre donc au service des plus pauvres, à l'image
voilà.
de Saint-François.
Voilà.
Elle s'engage dans le tiers-ordre franciscain, et donc... elle ne pense plus qu'à reconnaître le visage du Christ dans les plus petits de ses frères.
Voilà, et donc nous en revenons au tableau.
Tout à fait.
Voilà, pour qui représente donc exactement une distribution de pain aux pauvres.
Alors ce vitrail, donc pour le resituer, donc, il est dans une église néo-gothique, ce qui permet de très grandes ouvertures.
Oui.
Dans cette église, la hauteur des arcs monte jusqu'à 25 mètres. Et ce vitrail est large de 5 m 50 et haut de 7 m 33 pour être exact. Oui, donc c'est une œuvre assez imposante.
Oui, à l'image américaine. Oui. Alors chers auditeurs, si vous voulez aller voir donc ce vitrail en particulier, mais tous les vitraux de cette église, vous pouvez aller sur le site de Saint-Patrick de Montréal, de l'église Saint-Patrick de Montréal, et vous verrez une vue en 360 degrés magnifique. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Alors ce tableau, donc, on y voit évidemment Sainte Élisabeth de Hongrie.
Oui, alors elle est représentée de plein pied, c'est-à-dire qu'on la voit de la tête aux pieds. Elle est entourée de 6 personnages. Elle se tient debout, représentée de 3/4 et penchée légèrement en avant. Elle tend un pain à 3 personnes. Un homme qui incline la tête vers le sol, la mine triste. Une femme à genoux, levant ses deux mains vers Sainte Élisabeth.
Et son visage, oui, elle la regarde.
Elle le regarde avec attention et avec peut-être admiration.
Oui, et remerciement.
Remerciement,
et gratitude,
tout à fait, gratitude. Hein, oui, ce serait plutôt le terme. Et nous voyons également au premier plan un enfant éploré qui tient la cape de la femme qui est derrière lui et qu'on suppose être sa mère. Et donc cet enfant se frotte les yeux. À gauche, derrière ces 3 personnes, se tient un homme que l'on voit de profil.
Debout, oui.
Debout. D'une main, il touche le bras de Sainte Élisabeth et de l'autre, il tend la main vers elle. Il semble lui dire quelque chose.
Oui, peut-être avec reproche même, peut-être. On ne sait pas. C'est curieux. On peut se poser la question. Donc, il est habillé en vert, lui. Hein.
Tout à fait. Et donc, à droite de Sainte Élisabeth, on voit un homme également de plein pied. Portant un panier contenant du pain. Et il semble accompagner la sainte dans sa démarche charitable.
Voilà, puisque de la main gauche, la sainte, Sainte Élisabeth, puise dans ce panier et a déjà un pain pour distribuer à cet homme qui semble l'interpeller.
Tout à fait. Et alors, il y a une dernière silhouette qu'on devine, un dernier personnage qui est vêtu de bleu à l'arrière-plan.
Oui, mais dont on ne voit pas la tête.
Oui. C'est assez étrange.
C'est peut-être la reproduction.
Tout à fait, c'est peut-être possible. Une image incomplète. Je voudrais faire un petit détail, parler en particulier des vêtements qui sont représentés ici.
Il y a de belles couleurs.
Des très belles couleurs. Alors, chacun des personnages est représenté avec des vêtements qui sont colorés et unis. Et c'est ainsi que se portaient les vêtements au XIIIe siècle. Et on retrouve d'ailleurs les couleurs utilisées à l'époque, le rouge, le vert et le bleu. On portait donc des vêtements unis qu'on n'hésitait pas à superposer. On n'hésitait pas à superposer des vêtements de couleurs vives ou à doubler les côtes, c'est-à-dire les robes. On disait ça, on employait ce terme-là autrefois.
Oui, les côtes, c'était des robes courtes, je pense.
Oui, alors du coup, là, les hommes portent ça ressemble à des tuniques.
Oui, des tuniques.
Voilà,
oui.
Et les femmes, des tuniques plus longues. Alors, voilà. Ce que traduit très justement ce vitrail, hein, c'est très proche de la réalité du XIIIe siècle, en fait. Et justement, au XIIIe siècle, apparaissent de nouvelles couleurs qui sont issues du végétal. Le kermès et la garance permettent d'obtenir le rouge, la gaude d'obtenir du jaune et le guêde, le bleu.
Voilà, parce que Sainte Élisabeth a une belle cape jaune qui illumine le vitrail.
Alors, ces vêtements représentés ici sont simples. Hein, mais le porteur de pain et l'enfant sont même pieds nus. Donc, on devine que la distribution, en plus de la distribution des pains, qu'Élisabeth est entourée de pauvres auxquels elle vient en aide. Et Sainte Élisabeth de Hongrie est elle-même vêtue assez simplement.
Oui, mais elle n'est pas en princesse, mais...
Mais elle porte une cape jaune qui, comme vous le disiez, illumine ce vitrail. Et on peut supposer que c'est une étoffe un peu plus chatoyante.
Oui.
Peut-être du velours, qui était une étoffe qui était réservée à une classe sociale plus aisée.
Oui.
Sur sa tête, elle porte un voile blanc, une coiffe, et sa couronne.
Oui, elle a quand même la couronne.
Tout à fait. Alors, malgré la simplicité de cette tenue, on peut constater que ces vêtements donc, dénotent une aisance financière. Et donc, que c'est au moment où elle était encore princesse qu'elle distribue.
Oui,
voilà.
C'est avant son entrée dans le tiers ordre.
Voilà.
Voilà.
Les détails de ses vêtements donc, sont typiques du XIIIe, ce qui note pour moi la volonté des maîtres verriers d'être au plus près de l'histoire de la sainte.
Oui,
voilà.
Dans la réalité, proche de la réalité.
Et alors, oui. Petite histoire encore, Sainte Élisabeth s'habillait et se parait pour faire honneur à son mari à ce moment-là, mais elle n'aimait que la simplicité.
Voilà, mais on peut dire que la couronne est ici peut-être dans une autre perspective. Le peintre Verrier l'a couronnée, a couronné Sainte Élisabeth de Hongrie pour montrer d'abord que c'était elle qui est représentée, pour la distinguer des
oui,
autres.
Très certainement.
Et ne pas l'habiller trop simplement. Hein, alors que dans la réalité, elle devait l'être. Elle ne devait pas porter sa couronne en distribuant le pain. Voilà. En plus, elle a un halo autour d'elle, hein, une auréole autour de sa tête qui montre bien que c'est bien la sainte.
Tout à fait.
Voilà.
Alors, en termes d'iconographie, Sainte Élisabeth est aussi représentée avec... alors, aujourd'hui, nous voyons un vitrail où elle distribue des pains, mais on la voit très fréquemment aussi avec des roses dans le pan de sa robe. Et cela fait référence à un miracle qui s'est produit pour Sainte Élisabeth. On dit qu'elle a porté secrètement du pain aux pauvres à pied et seule, ce que réprouvait son mari. Un jour qu'il la rencontra sur son chemin, il était un peu contrarié, lui demanda ce qu'elle cachait ainsi sous son manteau. Elle lui répondit d'abord que c'était des roses, puis se rétractant, elle lui avoua pour finir que c'était du pain. Et lorsque son mari lui ordonna d'ouvrir son manteau, il n'y trouva que des roses.
Voilà, ça rappelle un petit peu Sainte Germaine de Pibrac pour nous. Occitan. Voilà.
Bon. Ces roses sont également symboles de charité.
Donc, oui.
Oui. C'est important dans le cadre de la représentation de Sainte Élisabeth.
Absolument. Alors peut-être que pour terminer, nous pourrions lire à deux la prière de l'ordre franciscain, du tiers ordre en fait. Mm-hmm. Hein, voilà. Et on peut alterner.
Très bien.
Notre Père qui es aux cieux, fais-nous déjà comprendre que la vie éternelle est même ici-bas comme au ciel, puisque tu nous as fait la promesse d'être tes héritiers.
Déjà au cœur de l'hiver, tu nous laisses entrevoir un printemps radieux, un aperçu de vie éternelle. Apprends-nous à t'adorer, te vénérer, te respecter dans l'obéissance.
Ton Fils Jésus s'est manifesté dans le mystère de la rédemption, comme étant notre frère, notre père, notre mère par la Sainte Église. Fais-nous comprendre que nous ne sommes pas dignes d'un tel héritage que tu nous as révélé par ton Fils.
Inspire-nous maintenant par ton Esprit Saint la délicatesse et la reconnaissance qui conviennent et qu'à l'exemple de François, cet autre Jésus, nous apprenions le respect de la nature minérale, de la vie végétale et animale.
Que l'Esprit de ton Fils Jésus soit au cœur des relations fraternelles que nous entretenons entre nous. Voilà, fin de cette prière de l'ordre du tiers-ordre franciscain. Voilà, et bien, chers amis, cette émission se termine. Merci à Maëlle de nous avoir tenu la technique hein, pendant cette émission. Merci à Clémentine
merci
d'avoir écrit une page de plus dans cette émission d'Art Sacré. Et chers auditeurs, merci de votre attention. Vous pouvez donc retrouver cette émission en podcast sur Radio Présence Cahors. Restez avec nous sur l'antenne de Radio Présence. À la semaine prochaine. Au revoir Clémentine.
Au revoir Marie-Madeleine.
Au revoir à tous.
Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.